Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus, accueillis au nom de Jésus-Christ. Je vois qu'il y a pas mal de places vides devant, donc ceux qui sont derrière, je vous encourage à venir devant. Soyez aussi les bienvenus, ceux qui sont connectés avec le récant, avec le culte en streaming, que vous soyez aussi présents. Est-ce que vous allez bien ce matin? Alors ceux qui sont devant leur écran peuvent aussi me répondre et dire s'ils vont bien. Vous pouvez envoyer un message à EM Partage, je les recevrai et puis je pourrai les communiquer à ceux qui sont ici en présentiel. Alors on se réjouit que vous soyez là, moi je me réjouis que vous soyez là. Je pense que le Seigneur aussi se réjouit de pouvoir célébrer un culte ici. Est-ce que vous croyez qu'il fait beau au-dessus?
Oui.
Ah ben c'est bien, vous y croyez. Alors moi je sais qu'il fait beau parce que j'ai été vérifié hier et puis j'ai vérifié ce matin. Effectivement, il fait grand beau. Alors ce matin, on va parler de plusieurs choses, mais aussi du ciel, des cieux. Alors ce n'est pas tout à fait le même ciel qu'il y a juste au-dessus de nous, mais on va parler du ciel, on va parler du royaume de Dieu. Alors ce matin, c'est l'histoire de Jésus, vous me direz que c'est normal dans un culte, mais c'est l'histoire du Fils de Dieu. Pour lui, à la fin de sa vie, il y a eu un changement de lieu de vie. Il est pleinement dans le monde, on sait que c'est l'homme Dieu qui est présent dans ce monde, mais à la fin, il savait qu'il allait quitter ce monde et aller au ciel. Donc il était un petit peu entre deux mondes. Donc Jésus a vécu pleinement dans ce monde, il en a d'ailleurs subi les conséquences, je crois que son message n'a pas plu à tout le monde, comme on le sait, et il y a des gens qui ont voulu l'éliminer, et ils l'ont fait. D'ailleurs, c'est le lot de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne plaisent pas au monde qui l'entoure, et ils sont aussi éliminés, torturés ou mis de côté, ou on leur supprime le travail. Alors Jésus-Christ, l'avantage sur nous, c'est qu'il savait ce qu'il attendait, il était bien informé, il savait qu'il allait finir mis sur une croix, qui serait mis au supplice. Et il a même cru à un moment donné qu'il était abandonné de Dieu, ce qui est la pire chose qui pouvait lui arriver. Et pourtant, cet homme qui était le Fils de Dieu était aussi un homme comme nous. Il est né, il a grandi comme un enfant, je ne sais pas s'il est allé à l'école, mais il a suivi un apprentissage, il a peut-être eu un CFC, et après 30 ans, il est entré dans ce ministère qui a duré que 3 ans, ce n'est pas beaucoup. Hein. Quand on pense à la durée de vie actuellement, la plupart d'entre nous. Et les disciples, et c'est là-dessus que Santoche nous apportera la prédication, qu'est-ce qu'il en est pour les disciples? Ils sont un petit peu aussi entre deux chaises, on dirait. Ils goûtent aux prémices du royaume de Dieu. Ils vivent quelque chose de fort. Puis en même temps, ils ont leur travail, ils ont leur famille, ils sont parfois malades. Donc aussi, ils sont entre deux. Ils sont tiraillés. Mais le texte qu'on va lire tout à l'heure dans Jean 17, le texte dit « Ils ne sont pas retirés du monde, ils sont entièrement à toi. » Donc ils sont dans le monde et en même temps, ils sont entièrement à toi, entièrement à Dieu. Et Jésus-Christ va s'offrir à eux et il va les envoyer, on va le voir tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a duplicité, est-ce qu'il y a une ambivalence entre ces deux modes de vie? Finalement, quelle est la place du chrétien dans ce monde? Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque ce sera le sujet de la prédication, mais on est vraiment invité à vivre quelque chose de très fort avec le Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce que tu nous donnes, merci parce que tu es là au milieu de nous, merci parce que nous savons où nous allons, merci parce que tu as montré le chemin par où tu as passé et nous savons que nous allons aussi être avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur pour ce culte, bénis tout ce qui sera partagé, qui sera dit, et que cela nous serve d'instruction. Amen. Je voudrais juste lire un texte qui se trouve dans le psaume 119, Comme vous savez, il est long, je vais juste lire un chapitre. Un paragraphe. Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre. Je m'efforcerai de le suivre jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ton enseignement et je l'observerai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre le chemin que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Mets en mon cœur plus d'attrait pour les ordres que le profit. Détourne mon regard de ce qui est illusoire et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, qui suis ton serviteur, ce que tu as promis à ceux qui te reconnaissent que tu es Dieu. Préserve-moi du mépris, il me fait peur, car ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre ce que tu exiges. Toi qui es juste, rends-moi la vie. C'est très dense, mais si vous voulez le relire, c'est dans le psaume 119, dès le verset 33. Voilà, je cède la parole et le micro à l'équipe de Louange.
Merci Daniel. Alors pour chanter les chrétiens dans le monde, on va commencer par chanter que Christ est la lumière du monde. Christ, si on l'aime, c'est parce qu'on sait qu'il nous a aimés le premier. Il m'aime.
Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui m'a fait vivre.
Quand on aime Christ, on le voit partout dans ce monde. C'était toi. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Si coule sous la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'est le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie imminente, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là.
ciel, les traces de tes pas.
Que suis-je éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours mon Dieu, j'en reste émerveillé. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix, que ma cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi.
Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver ici en présentiel et aussi d'être en communion avec ceux qui nous écoutent auprès ou au loin. Je profite de saluer mon beau-père Francis qui est à Bruxelles, si tu nous vois. Et aussi Lauriane, ma filleule, à Manchester. Donc en fait, c'est assez international ce culte. Qui sont les évangéliques ? Des hommes et des femmes. Qui sont les évangéliques ? Une bonne question, non ? Ce sont des chrétiens qui s'opposent à la modernité. Qui c'est qui a dit tu parles ? Ah ben, il n'y a que Anne qui peut le dire. Eh ben, c'est une phrase que j'ai entendue à la radio il n'y a pas très longtemps et qui m'a interloqué. Est-ce que c'est juste ? Pourquoi est-ce que les évangéliques, en tout cas par certains, sont considérés comme étant des chrétiens qui sont contre la modernité ? Apparemment, il y en a certains ou certaines qui ne se reconnaissent pas dans cette affirmation, mais il y a peut-être d'autres qui peuvent l'entendre. Est-ce que moi, je me reconnais dans cette affirmation que je suis un chrétien qui est contre la modernité ? Alors, je me suis posé une deuxième question. Oui, Alex ?
Qu'est-ce la modernité ?
Et je me suis posé la même question que toi. Est-ce que la modernité, c'est ce que la Bible entend par le monde ? Anne dit non, pour ceux qui ne voient pas, qui ne la voient pas. Par opposition à l'Esprit de Dieu, ce serait l'Esprit du monde. Parce que le terme « le monde », comme Daniel nous l'a dit, c'est un terme très souvent utilisé, surtout dans le Nouveau Testament, par l'apôtre Jean et un peu par l'apôtre Paul. Deux thèmes d'actualité peuvent résumer ce sujet. Évidemment, toujours et encore, le pass sanitaire et la vaccination contre le Covid. Et aussi une votation toute récente, c'était le mariage pour tous. Deux sujets qui divisent quand même le monde, et malheureusement, le monde chrétien également. Dans les milieux évangéliques, on lit et on entend de plus en plus de positions plus tolérantes envers l'homosexualité, ou en tout cas envers l'homosexuel, on fait la différence, et aussi le mouvement LGBT. Alors qu'il y a encore 15 ou 20 ans, en tout cas en Europe, la plupart des églises évangéliques étaient fermement opposées à cette ouverture.
Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une preuve d'adaptabilité de notre Église à notre monde? Une preuve de tolérance et d'amour envers notre prochain? Ou est-ce que c'est un compromis de notre compréhension de la parole de Dieu et de l'ordre instauré par Dieu de la création du couple? Je vous laisse avec ces questions. Pour vous en poser encore. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes des réactionnaires, c'est-à-dire c'était mieux avant? Anne? Non? Ou est-ce que vous êtes conservateur, c'est-à-dire que tout va bien maintenant, on change rien? Ou est-ce que vous êtes des progressistes, c'est-à-dire il faut du changement? Je peux faire l'hypothèse qu'en fonction des thèmes qui sont traités, ben vous serez soit conservateur, soit réactionnaire, soit progressiste. Prenons, je ne sais pas, par rapport à la musique, la louange dans l'Église, par rapport à la place de la femme dans l'Église, ben, il y a eu beaucoup de changements et peut-être que selon les sujets, ben, vous vous situez dans une catégorie plutôt qu'une autre. Pour rebondir à ce que Alex nous a dit, c'est quoi la définition de la modernité? Alors, il n'y a pas une seule définition sur le plan historique, sur le plan philosophique de la modernité. J'ai trouvé une définition pour un peu simplifier, qui est la suivante. La modernité, c'est un concept qui désigne que nous agissons conformément avec notre temps et plus en fonction de valeurs considérées comme étant dépassées. Un concept qui désigne que nous agissons conformément avec notre temps et plus en fonction de valeurs considérées comme étant dépassées. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous lisez cette définition. Personnellement, je trouve qu'on sent une certaine tension qui peut apparaître, puisque nous, en tant que chrétiens, et d'autant plus protestants évangéliques, nous tenons vraiment à nous baser sur la Bible, et nous avons raison, parce que nous pensons que c'est vraiment la parole de Dieu et qu'elle est inspirée de Dieu, évidemment. Mais la Bible a quand même été écrite il y a 2000 ans, au minimum, 2500 ans, voire un peu plus. Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer au XXIe siècle? Comment rester fidèle à la parole de Dieu tout en étant ouvert à nos contemporains? En sachant que la grâce commune nous accompagne. Eh bien, je pense que là, on peut se sentir tiraillé et je suis sûr que chacun de vous, selon les sujets qui sont traités, vous sentez cette tension dans votre quotidien. Et l'esprit du monde, à quoi est-ce que cela correspond dans la Bible? Vous avez certainement entendu parler, je dirais que c'est surtout on entend parler de ça parmi nos jeunes, où on dit il a le pied dans l'Église et il a le pied en même temps, un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et un texte que j'ai trouvé très rafraîchissant, c'est le texte que Michaela nous a proposé pour se présenter comme ancienne, et on se réjouit qu'elle soit ancienne. Et elle dit « Une des choses que Dieu m'a enseignées, c'est de me laisser transformer par lui et non par le monde. » Donc ce matin, on va essayer de voir les contours de ce thème. Je ne suis pas sûr que vous serez beaucoup plus au clair à la fin de cette prédication. Je vous prie de m'en excuser. Et aussi, si je vais titiller un tout petit peu la sensibilité de certains, parce que voilà, il y a des thèmes qu'on va aborder et peut-être que vous ne serez pas du même avis. Le but, ce n'est pas de créer encore plus de confusion, mais de permettre une réflexion. Parce que comme Daniel nous a dit, nous avons cette double appartenance. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Toutefois, j'ai la certitude que Dieu nous demande d'aimer notre prochain, d'aimer ce monde, mais on doit s'en protéger, s'en différencier, et ne pas s'y conformer avec l'aide du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas seulement une loi, mais je pense vraiment que c'est comme ça qu'on est plus heureux, plus épanoui, qu'on a cette liberté. Parce que Dieu nous demande. Si Dieu nous le demande, c'est pour nous rendre plus libres. Le monde est employé dans l'Ancien Testament, c'est le terme tébel, mais c'est surtout dans le Nouveau Testament que c'est utilisé, avec deux mots grecs, aion et cosmos. Cosmos, on le connaît tous. Mais c'est le mot le plus connu qui est utilisé et de manière assez surprenante, ce même mot est utilisé avec des significations différentes. La première signification que vous voyez là, le monde, c'est les habitants de la terre, les hommes, l'humanité entière. Jean 3,16, c'est le verset qu'on connaît tous, « Dieu a tant aimé le monde », c'est le même mot « cosmos ». Et ensuite, il y a un aspect plus éthique, plus moral. Le monde, c'est ceux qui vivent éloignés de Dieu, c'est l'organisation de l'humanité qui est gouvernée par le péché, la convoitise, l'orgueil, le mensonge et la violence. En fait, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu est considéré comme étant le monde. Pour continuer, je vous propose quelques textes bibliques. Les textes, c'est dans Jean 3, Jean 17, l'épître de Jean, et un verset dans Romains, le Romains 12, les versets 2, que Hélène va nous lire.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième texte. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est ta vérité. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Avant de poursuivre, je m'arrêterai juste sur ce verset 2 de Romains 12. Je trouve intéressant parce qu'en fonction des traductions, il y a le terme soit le monde, soit le siècle présent. C'est-à-dire ne vous conformez pas au monde ou au siècle présent. Et je trouve que c'est là où on peut voir ce petit bascule entre la modernité, se conformer au monde présent et ce terme le monde. Je voudrais aborder le terme de l'Église et le monde, et ensuite je parlerai de manière plus concrète du chrétien et du monde. Qui c'est qui peut me donner la définition de l'Église ? Sans regarder sous Google. Quelle est la définition de l'Église ?
C'est un
rassemblement de croyants, c'est juste. Et si on regarde le thème... En Jésus-Christ, oui. Et si on regarde la racine grecque, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ? Exactement. Qui veut dire ? Ecclésia, qui veut dire en effet qui a été appelé hors de. Qui a été appelé hors de quoi ? Hors du monde. Donc on voit que dans la définition même de l'Église, il y a cette notion de différence, de séparation, qu'on le veuille ou pas. Donc il n'y a pas de doute que l'Église doit être différente, pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous avons vraiment reçu la grâce. Et en recevant la grâce, nous sommes transformés aussi dans la compréhension de certaines choses. L'Église est donc, comme vous avez dit, la communauté de croyants qui est appelée ensemble, hors du monde. Et cette séparation avec le reste du monde n'est pas liée à notre naissance, comme le peuple d'Israël, mais par la foi du croyant, par la grâce que Dieu nous a accordée. Parce que Calvin a aussi utilisé ce terme de régénération. Les grands mouvements de réveil ont utilisé ce terme de conversion, qui est évidemment un terme biblique. Et au XXe siècle, surtout les églises évangéliques américaines utilisaient le terme « nouvelle naissance » que nous utilisons aussi. Tous ces termes veulent dire la même chose. Mais c'est Dieu qui fait son œuvre dans nos vies. Ainsi, nos églises évangéliques, on les définit comme des églises de confessants, de professants, en opposition aux églises dites de multitude, qui sont les églises luthériennes, réformées, catholiques ou orthodoxes. Alors de nouveau, ce n'est pas pour juger ces différentes communautés, parce qu'évidemment elles contiennent beaucoup de chrétiens authentiques, mais je souligne simplement le fait que quand on appartient à une église essentiellement par la naissance ou par la religion de ses parents, avec le temps, il y a certainement un appauvrissement de l'authenticité de la foi exprimée dans ces communautés. Mais évidemment, les exceptions sont multiples dans tous les pays, mais je dirais certainement dans les pays minoritaires et persécutés comme les églises dans les pays du Moyen-Orient. Ce qui est intéressant à voir, c'est dans l'histoire des églises des réveils dont nous sommes issus, nous constatons que les réveils étaient toujours accompagnés évidemment de conversion, mais aussi d'une prise de conscience de l'engagement social, culturel, intellectuel et politique pour le monde environnant. Si on regarde le réveil méthodiste de John Wesley, si on regarde Finney et bien d'autres, ils ont contribué à beaucoup d'œuvres sociales, philanthropiques, humanitaires et à des prises de position politiques très tranchées. Si on regarde Finney, il s'est vraiment positionné contre l'esclavagisme de manière certaine. D'ailleurs, c'était intéressant la définition qu'il donnait de l'Église dans son œuvre. Là, il disait, Finney, que la grande tâche de l'Église, c'était de réformer le monde. La grande tâche de l'Église, c'est de réformer le monde. Il ne faut pas oublier aussi que les plus grandes universités américaines de l'Est de la côte des États-Unis ont toutes été créées par les puritains britanniques. Ce qui est aussi intéressant, que dans les années 30, au XXe siècle, et pendant plus de 50 ans, essentiellement, il faut dire, sous l'influence des évangéliques américains, il y aura eu un grand changement dans ce que les historiens appellent le grand tournant. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. Ce grand tournant, c'est en fait... Oui ? Si quelqu'un... Ce grand tournant... C'est le fait que le mouvement évangélique s'est concentré essentiellement sur le salut individuel et a délaissé son engagement dans la société. Pourtant, qui sait sa marque de fabrique que tout le monde reconnaissait. Si je regarde en Inde, beaucoup de missions ont créé beaucoup d'hôpitaux de grande qualité et ils accueillaient évidemment toute la population, des plus pauvres au moins pauvre, mais quelle que soit la race, quelle que soit la religion, et c'était vraiment une marque de fabrique, c'était l'excellence des chrétiens au service du monde. Il existe plusieurs raisons à ce changement, à ce grand tournant, que je trouve intéressant, que John Stott, donc ce théologien anglican qui nous a quittés, mais qui a beaucoup influencé la pensée évangélique, donne plusieurs raisons dont je retiens deux. Tout d'abord, les évangéliques ont décidé de concentrer toute leur énergie à défendre la foi véritable contre les attaques du courant historico-critique, c'est-à-dire ce courant qui remettait en question l'authenticité des textes bibliques, l'historicité et la véracité des textes bibliques. Donc ils se sont tellement concentrés à défendre cela qu'ils ont perdu l'engagement. D'où ces termes, ils ont défendu justement ces valeurs fondamentales qui est devenu justement le fondamentalisme. Une des autres explications, que je trouvais aussi très intéressante, c'est la vision prémillénariste de l'histoire dont le mouvement évangélique a été très influencé, surtout par John Darby. Vous connaissez certainement donc Darby, cet homme de Dieu qui a été très engagé au XIXe siècle, qui a créé aussi cette église des frères étroits. Et pour faire court de cette théologie de la vision prémillénariste, cette théologie voit dans le siècle présent un siècle mauvais. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas améliorer avec l'effort des hommes. Et que malheureusement, la rédemption que Christ nous donne ne peut pas aussi transformer cette terre. et qu'on va voir progressivement une détérioration croissante de la situation de ce monde jusqu'au retour du Christ qui instaurera un royaume de 1000 ans sur la terre. Alors pour moi, il n'y a évidemment aucun souci de penser prémillénariste. C'était plutôt dans les années 70, 80, ça faisait des grands débats dans les églises évangéliques. Est-ce qu'on était plutôt prémillénariste, amillénariste ou postmillénariste? Mais c'est plutôt la conséquence des engagements des chrétiens dans le monde que je trouve dommageable et qui laisse encore des traces aujourd'hui. Je me rappelle que, en tout cas, quand j'étais jeune, on pouvait dire à quoi ça sert de se soucier de l'écologie, parce que de toute façon, la terre va se détruire et Jésus va revenir. Et bien, c'est une des choses qui fait que les chrétiens, et certainement plus évangéliques, ont délaissé aussi le monde politique. Et pour rendre les choses un petit peu plus complexes, de l'autre côté, il faut bien avouer que le monde environnant, la société, influence l'Église, mais pas nécessairement négativement, voire même positivement. Si on regarde deux aspects de la vie chrétienne de nos églises, la louange et la place de la femme dans l'église. Prenez l'exemple de la musique chrétienne. Est-ce que vous êtes réactionnaire, conservateur ou progressiste? Philippe, t'es plutôt quoi? Avoue-le.
Rien.
En tout cas, ma belle-mère, qui nous a quittés, pour elle, c'était vraiment les vieux cantiques. C'était mieux avant, parce que les paroles étaient tellement plus profondes. Maintenant, les chants modernes, mais vous avez bien choisi, hein. C'est toujours les mêmes paroles qui reviennent et qui reviennent. Et pourtant, on a eu la chance avec Aloïse d'aller écouter à Londres, dans une église, que vous connaissez peut-être le type, les églises Hillsong, où il y a beaucoup de bruit, la musique est très forte, très moderne, mais qui est très enthousiasmant pour les jeunes. Et je pense que le psautier roman, je ne suis pas sûr que ça attirerait beaucoup les jeunes actuellement. Donc il y a un problème, il y a un phénomène de temps où l'Église doit s'adapter aussi à la société. Et pourtant, moi, quand j'étais dans un groupe de jeunes, dans les années fin 70, 80, c'était un grand débat de savoir quel type de musique est-ce que le jeune pouvait écouter et surtout, est-ce que la musique chrétienne pouvait avoir une base sur un fond moderne comme le rock. Et des pasteurs comme Pasteur Wilkerson, très connu, qui est donc ce pasteur américain qui a vécu ce phénomène de la croix et le poignard, avait écrit tout un livre pour mettre en garde les jeunes chrétiens de la musique moderne, musique chrétienne moderne. On voit donc que les temps changent. Autre exemple, la place de la femme dans l'Église. Il faut avouer que c'est quand même assez tardivement que nos églises évangéliques ont accepté à ce que la femme puisse avoir plus de place. Dans la plupart des églises évangéliques, et jusqu'à récemment, elles n'avaient pas le droit même d'enseigner. Ou uniquement, et c'est quand même assez hypocrite, où ça ?
Aux enfants,
comme si évidemment c'était des sous-marques. Elles devaient être voilées dans certaines églises, elles étaient séparées, je pense qu'elles le sont encore dans les églises d'arbistes. Donc les choses ont beaucoup changé. Est-ce que vous savez qui était la première femme pasteur dans le monde francophone? Exactement, bravo. 1929, église baptiste du Tabernacle. Dieu soit loué, un siècle après, nous avons une femme pasteur chez nous, en la présence de Célina. Ça a pris du temps. Mais il faut bien avouer que si Célina est notre pasteur, c'est pas à cause du mouvement à l'intérieur de l'Église. C'est quand même le monde, heureusement, qui permet aussi qu'il y ait plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais pour certains diront que l'esprit du monde est entré par la petite porte de l'Église. Le chrétien et le monde. L'apôtre Jean aborde le thème du monde sous deux angles, comme on a dit, avec le terme cosmos. Dieu dit qu'il aime le monde dans Jean 3,16. Et nous sommes appelés à aimer aussi le monde. C'est le cœur de l'évangile, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, pour l'humanité entière. Et de l'autre côté, de manière surprenante, Dieu nous demande de ne pas aimer le monde, mais d'aimer le Père. Jésus nous demande d'aimer le Père, mais pas le monde. Mais vous l'avez bien compris, c'est bien mentionné que nous devons aimer notre prochain, ça fait partie évidemment de ses commandements, alors que quand Dieu nous demande de ne pas aimer le monde, cela équivaut à ne pas aimer tout ce qui est dicté par les aspirations sombres et négatives de l'homme, ses mauvais penchants, le péché. Par la nouvelle naissance ou la conversion, le chrétien est appelé dans un processus de changement progressif qui va toucher petit à petit tous les domaines de sa vie, le domaine religieux, familial, financier, professionnel, social, et aussi notre plus grande intimité, comme la sexualité. C'est dans tous ces domaines que nous serons transformés par Dieu et que nous changerons nos habitudes de pensée et également de vivre. C'est pour cela que l'apôtre Jean souligne la notion de convoitise. L'esprit du monde est relié à cette notion de convoitise de la chair et des yeux et de l'orgueil de la vie. Il me semble que cela renvoie au fait que le monde externe que Dieu nous demande de nous protéger est malheureusement aussi ce monde interne d'où peut naître le péché, c'est-à-dire la convoitise. Comment est-ce que vous vous situez avec ce que vous n'avez pas et ce que vous voudriez avoir ? La convoitise se définit par un désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. Un désir extrême et sans scrupule de posséder quelque chose. C'est pas juste de « ben, je voudrais bien ce type de pantalon ou autre ». C'est un désir extrême et sans scrupule, qui peut être évidemment ses pensées d'adultère ou autre. Et je pense que beaucoup de choses peuvent être en fonction du siècle présent, qu'on devra s'adapter, mais la convoitise sera toujours ennemie de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Et elle se décline de nouveau dans beaucoup de domaines, matériels, financiers, notre statut social, professionnel, et aussi dans notre rapport avec la sexualité. Si j'arrive à gérer ma convoitise, je fais vraiment quelque chose de différent. Je gère ma sexualité différemment, je gère ma relation au pouvoir et à l'argent également différent. Mais évidemment, un des pièges serait de devenir légaliste. On est vraiment sur un fil. Et on sait que le légalisme a détruit tellement de chrétiens, tellement d'églises. Par exemple, est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas aimer ce qui est beau ? Vouloir le posséder s'il en a les moyens ? Une belle voiture, un beau tableau, une belle maison ? Il me semble que ce que la Bible condamne est ce désir extrême et sans scrupule au détriment de notre prochain et de notre relation avec Dieu. Quand le désir est un but en soi, je pense que là, on se trompe. Il existe aussi des domaines qui peuvent être apparentés au monde, mais qui sont tributaires, comme on l'a vu, du contexte dans lequel nous vivons, pas comme la convoitise, justement. Si nous revenons, par exemple, à notre relation à la modernité, en termes de science et de médecine, même si c'est une période extrêmement dure, je trouve quand même intéressant d'observer le mouvement, nos mouvements, les mouvements protestants, évangéliques, même les catholiques, de savoir comment ils se positionnent vis-à-vis de ce que nous vivons avec cette pandémie. Parce que ça met aussi c'est aussi révélateur de comment est-ce que nous nous positionnons vis-à-vis de la science et de la médecine. Comme vous, j'ai lu des articles écrits par des chrétiens très engagés. J'ai discuté avec des frères et sœurs très engagés qui refusaient la vaccination contre le Covid ou le pass sanitaire pour des raisons spirituelles et pas seulement sur le plan sanitaire. Ils sont convaincus que c'est un piège de l'esprit du monde que de se faire vacciner avec ce type de vaccin, et je souligne bien parce qu'ils ne sont pas contre tous les vaccins, mais ce type de vaccin, que ça peut être aussi un manque de confiance en Dieu ou c'est même un signe de la fin des temps. Et qui font le constat que le pass sanitaire divise l'Église. Comme vous, j'ai lu aussi d'autres chrétiens tout aussi engagés, dont je dois dire que je fais partie, faire une tribune en proclamant que pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Avec des arguments scientifiques et bibliques. Est-ce que ce vaccin anti-Covid et le pass sanitaire, est-ce que ce sera un enjeu de notre relation avec le monde, avec la société et aussi avec nos frères et sœurs en Christ? Finalement, je crois aussi que l'interprétation que nous sommes hors du monde a parfois été mal interprété dans nos milieux évangéliques avec une frilosité à nous engager justement dans le monde, à prendre des postes à responsabilité dans le monde séculier si on en avait la possibilité. Évidemment, l'extrême, on pourrait dire, ce sont les couvents, les monastères qui se sont isolés complètement du monde. Vous connaissez aussi les Amish, donc ces anabaptistes qui ont été persécutés et qui étaient dans la région bernoise et puis aussi en Alsace et qui ont dû migrer aux États-Unis et qui vivent vraiment en marge de la société. Pas de voiture, rien du tout, très peu de choses modernes. Et leur première règle est « tu ne te conformeras point à ce monde qui t'entoure ». Donc ils prennent vraiment au pied de la lettre la parole de Dieu. Personnellement, je bénis Dieu quand je vois des chrétiens qui s'engagent dans la mission. Dans notre église, deux jeunes se sont engagés dans le conseil. C'est vraiment merveilleux. Et je bénis aussi Dieu quand je vois des chrétiens, jeunes ou moins jeunes, qui s'engagent sérieusement dans ce monde, quel que soit leur métier, pour être des témoins de l'amour de Dieu dans leurs propos, mais aussi dans leurs actes. Menuisiers, enseignants, fonctionnaires, qu'importe, nous pouvons être des témoins. Et sans aucune forme d'élitisme, je suis aussi réjoui quand je vois des chrétiens qui prennent des postes à responsabilité dans des métiers séculiers, car je crois que nous serons ainsi sel de la terre et lumière du monde. Dans nos milieux évangéliques, il y a eu une éthique du travail et que je trouve remarquable, comme dans les milieux protestants. Mais il y avait aussi, et il y a le risque un petit peu, d'être un peu méfiant d'avoir des postes à responsabilité dans le monde. Je me rappelle encore une oncologue pédiatre qui venait de l'université d'Yale, donc une des plus grandes universités au monde, qui était venue il y a à peu près 20 ans donner son témoignage du travail qu'elle faisait avec les enfants en oncologie. Et elle avait fait cet appel aux étudiants en médecine en disant « ne vous contentez pas », et je mets bien entre guillemets, d'être juste des gentils médecins généralistes, mais prenez aussi des postes à responsabilité dans le monde hospitalier et dans le monde universitaire. Et je crois combien c'est important. Si on prend l'exemple juste d'Alexandre, combien de personnes ont été bénies pour son travail dans le milieu hospitalier? Je lance donc un appel à nos jeunes, soyez audacieux dans votre engagement dans le monde, mais évidemment prenez Dieu avec vous. Pour continuer cette réflexion, je voudrais laisser la place à deux femmes de notre Église, deux femmes qui sont deux générations, on peut dire, différentes, pour qu'elles nous disent comment est-ce qu'elles vivent justement cette tension entre être dans ce monde tout en n'étant pas du monde. Alors je vais demander à Héloïse de venir.
Bonjour à tous. Donc, je suis Héloïse Itti, la fille de Saint-Oche. Donc, premièrement, cette thématique du monde me parle particulièrement parce que j'ai eu beaucoup de questionnements à ce sujet pendant un long moment. C'était il y a environ 2 ans que j'ai commencé à vraiment me pencher sur le sujet en me demandant qu'est-ce qui était sous-entendu derrière le mot monde et qu'est-ce que ça devait impliquer dans notre conduite en tant que chrétien. J'entendais un peu autour de moi que si on aimait les choses du monde, on devenait ennemi de Dieu, et que la foi ne suffirait pas à nous sauver. Il ne fallait donc plus écouter de musique non chrétienne, de côtoyer des gens non chrétiens. En fait, toutes les choses qui n'impliquaient pas Dieu directement étaient mal. À ce moment, je me suis beaucoup remise en question vis-à-vis de mon mode de vie, et j'ai commencé à douter de mes conduites. J'en ai donc un peu parlé autour de moi, à ma famille, à des gens du groupe de jeunes, pour avoir leur avis sur la question et essayer de mieux comprendre. J'ai aussi beaucoup prié et lu vis-à-vis de ça. Ma réflexion a donc été longue et je suis encore en train de me poser des questions. Mais je pense aujourd'hui avoir quelques pistes de réponse. Alors évidemment, je peux me tromper. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Donc c'est tout à fait possible que je dise des choses que maladroites ou que vous ne soyez pas d'accord. Donc ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vais dire. Mais pour l'instant, c'est mon avis. Peut-être que dans 2 ans, je relirai mon texte et me dirai que c'est que je suis à côté de la plaque, mais du moins c'est ce que je pense aujourd'hui. Alors, déjà, par définition, je pense qu'en tant que chrétiens, nous sommes d'une certaine façon différents des autres. Il est vrai que nous avons des conceptions de la vie qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec celles de la société actuelle. Néanmoins, je ne pense pas que ça implique qu'on doive vivre reculé du monde et ne pas se mélanger avec les autres. Parce qu'en effet, on a un rôle à jouer sur cette terre, qui est celui d'être témoin de Dieu et de son amour. Nous devons être de ce monde, mais pas du monde. Une phrase qui m'a beaucoup chamboulé l'esprit, mais qu'aujourd'hui je comprends comme cela. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour une raison et nous avons été placés dans un endroit bien particulier selon sa volonté à lui. Nous devons donc nous intégrer dans la société et entretenir des relations avec le monde tout en se démarquant des autres par notre foi. Nous ne sommes évidemment pas parfaits. Je ne pense pas que parce qu'on est chrétien, on a une conduite parfaite selon comme lui en a une. Mais je pense qu'en faisant confiance en Dieu et en ayant une foi sincère, en se laissant guider par lui, on agit quand même en conséquence et on se démarque d'une certaine façon du monde. Je pense que lorsque la Bible nous demande de ne pas faire partie du monde, il y a une notion de ne pas trop s'attacher aux choses matérielles et superficielles de ce monde. Parce que ça peut considérablement nous éloigner du Christ. Ce que Dieu veut, c'est alors qu'on se rattache profondément qu'à lui. C'est simplement en fait pour nous protéger. Les choses sur cette terre sont éphémères. Alors que notre relation avec Dieu, notre union avec lui, est éternelle. Lui, il ne nous abandonnera jamais. En lui seul, nous pouvons avoir une pleine confiance. Alors qu'au contraire, les choses du monde sont plus incertaines et peuvent nous faire du mal si on s'y raccroche trop. Par ailleurs, je ne pense pas du tout qu'aimer les belles choses, que côtoyer des non-chrétiens, que d'écouter de la musique du monde est malsain. Du moment où, dans notre cœur, nous n'avons pas d'adoration pour qui que ce soit, je trouve qu'échanger et entretenir des relations avec d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement de foi, je pense que c'est quelque chose d'enrichissant. Personnellement, dans mes relations, j'ai pas l'impression que ça m'éloigne de Dieu. J'aime beaucoup passer du temps avec le groupe de jeunes ou d'autres amis chrétiens, mais je trouve aussi très enrichissant d'avoir des discussions ou d'échanger des rapports avec d'autres personnes. Mes amitiés, hors du cadre un peu chrétien, sont très importantes et je pense qu'aussi c'est par là qu'on devient témoin de Dieu. Et c'est de cette manière que nous-mêmes grandissons aussi. Pour finir, je pense qu'un équilibre est important, dans la mesure où il faut faire partie de ce monde tout en se dissociant des actes, des comportements, des pensées qui ne reflètent pas ce que Dieu veut, et je pense qu'il faut le glorifier à travers tout ce qu'on fait sur terre. Je ne pense pas qu'un équilibre signifie être tiède, mais je pense qu'il révèle simplement d'un amour pour Dieu et pour les autres qui implique une volonté de glorifier constamment Dieu et de le faire connaître aux gens qui nous entourent. Nous ne devons pas oublier que le commandement le plus important est d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et que le deuxième est d'aimer son prochain comme soi-même. La notion d'amour est alors très importante. Elle va au-dessus de tout, et c'est par elle, selon moi, que nous devons être guidés.
Et maintenant, c'est Heidi qui va nous transmettre aussi une pensée.
Bonjour à chacun. Alors, Santosh nous a envoyé à Héloïse et à moi une phrase pour nous aider à réfléchir sur ce sujet. Ne pas se conformer au monde et en même temps vivre dans ce monde selon la volonté de Dieu. Alors, c'est des notions complexes qui ont beaucoup évolué au fil de ma vie. Et certaines questions ont plus ou moins de pertinence selon la réalité quotidienne qui évolue, selon notre vie quotidienne, ce qu'on fait, quoi. Ce que j'ai pensé à l'âge d'Héloïse, ou disons les difficultés que j'avais, c'est pas du tout les mêmes que maintenant parce que notre vie est totalement différente. Donc actuellement dans ma vie, ce qui m'interpelle le plus dans ce sujet, c'est moins le fait de ne pas se conformer au monde, même si c'est important, tout ce que Santosh a dit sur la convoitise, l'orgueil de la vie et tout ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui sont le travail de toute une vie, en fait. Mais ce n'est pas forcément ce qui me préoccupe quand je pense à ce sujet en ce moment. C'est plutôt l'importance de vivre dans le monde, dans le sens de vivre dans la réalité de ce monde. Et pas dans l'illusion d'un monde de bisounours, avec les yeux ouverts sur la réalité. Pas non plus dans un mini-monde de bisounours, c'est-à-dire dans une bulle, dans une genre de sous-culture chrétienne ou une sous-culture évangélique qui est encore dans, à l'intérieur de la sous-culture chrétienne et qui est censée nous protéger du monde ou pas. Je suis dans le monde. Je fais partie du monde. Je suis un membre du monde. Et le slogan de notre église locale, c'est « Rejoindre mes reins », comme vous le savez. Mais ce slogan, même si je comprends son but, il m'a toujours un petit peu gênée parce qu'en fait, moi, je ne veux pas rejoindre mes reins. Je suis mes reins. Je vis dans la réalité physique du monde, c'est vrai. Et ça implique forcément les idées qu'on peut avoir sur l'environnement, l'écologie, etc. Mais je vis aussi dans la réalité culturelle, dans le monde des idées actuelles. Donc j'accepte d'apprendre et j'accepte de changer. Je lis, j'écoute, j'apprends, je réfléchis, je change d'avis, je critique les idées et les pensées de tous bords. Je ne m'exclus pas de tout cela, je ne m'isole pas. Lire ma Bible, c'est bien, venir à l'église, c'est bien, lire des articles en ligne chrétiens ou des livres théologiques, c'est bien. Mais ça ne va pas suffire pour comprendre les questions complexes de notre époque. Et ça ne va pas suffire pour agir de manière intelligente dans la réalité du XXIe siècle. Parce que le monde chrétien ne fait pas toujours mieux. Et même, il ne sait pas toujours mieux que les autres. Et pour dire cela d'une manière un peu provocante, l'Église est parfois plus conforme au monde que le monde. L'Église est parfois plus conforme au monde que le monde. Par exemple, je donne des exemples, ça ne concerne pas forcément notre Église, hein, mais de manière générale. Le racisme, l'abus de pouvoir, les abus sexuels, la discrimination envers les femmes, les dissensions violentes et même les chamailleries débiles, etc., etc. Toutes ces choses... Parfois, c'est pire dans l'Église que dans le monde. Et pourtant, on dirait que ça ressemble au monde. Et certaines de ces choses, on ne s'en rend compte que si on ne reste pas dans notre bulle, que si on sort de notre bulle pour regarder la bulle depuis l'extérieur. On dit souvent que le danger, c'est le monde, mais le danger, c'est aussi la bulle étanche, opaque, qui nous isole des autres et qui nous garde entre soi. Attention à ne pas devenir des complotistes, je mets des guillemets, ou je ne les mets pas, je ne sais pas, mais des complotistes chrétiens qui ont un système d'information entre soi et qui ne laissent pas de place ni au doute, ni à l'esprit critique et qui mènent à des aberrations. Cela fait un moment que je réfléchis à cette question de bulle et d'être comme ça isolé du monde. Et le fait de changer d'église il y a quelques années, là, 4 ans, ça m'a fait sortir d'une bulle que je ne voyais même plus. Parce qu'en fait, quand on est dans la bulle, on la voit pas forcément parce que on est bien, on est dedans. Et est-ce que j'en ai intégré une autre ? En changeant d'église, je suis sortie d'une bulle pour entrer dans une autre bulle. Est-ce que c'est bien ou pas? En voyant la montée des complotistes actuellement et les intersections faciles, parfois avec certains milieux chrétiens, je trouve que le danger est encore plus visible. Pour moi, tout sauf perdre ma liberté de penser et mon intelligence. Parce que dans une bulle, la liberté est parfois très relative. Il y a la pensée dominante, il y a le politiquement correct, il y a ce qu'on peut penser, ce qu'on ne peut pas penser, ce qu'on peut croire, ce qu'on ne doit pas croire, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne doit pas dire. peut-être pas tellement maintenant ce qu'on peut mettre et pas mettre, mais il y a une époque, c'était ça aussi. Il faut laisser rentrer les nouvelles idées. Il faut laisser exister les désaccords. Il faut laisser rentrer les nouvelles idées dans ma tête, dans notre église, dans notre façon de réfléchir sur tel ou tel sujet d'actualité, dans notre façon de comprendre telle ou telle idée théologique. Nous ne sommes pas du monde. C'est une réalité spirituelle. Une différence intérieure d'identité qui nous amène à une différence d'attitude intérieure et donc aussi à une différence de comportement. On peut s'intéresser à tout, donc. On peut garder un esprit critique, un certain recul par rapport au mode de pensée, par rapport au comportement et par rapport aussi aux règles de nos propres bulles. Et tout ça, c'est le renouvellement de l'intelligence que Dieu a envie que nous vivions. Et pour ça, on a besoin de lui. Voilà, merci.
Merci beaucoup à Héloïse et à Heidi pour ce que vous nous avez apporté. Ces deux témoignages nous pousse à réfléchir à ce que Dieu nous appelle à faire et à être au monde. Je pense que ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui va faire la différence, mais aussi comment nous le faisons, comme on l'a entendu, dans quel état d'esprit nous le faisons, avec ou sans Dieu, et si c'est pour faire avancer la gloire de Dieu ou la nôtre. Je crois aussi que nous devons accepter que nous ayons des pensées différentes sur certains sujets. Nos interprétations pourraient être différentes. Mais rappelez-vous ce que Philippe Anchaud nous a dit au début novembre. Il a parlé de l'unité. Avec tout ce que nous vivons avec cette pandémie, il est grand temps que nous, les chrétiens, nous montrons justement une voie différente. L'unité, l'amour et le non-jugement. Que Dieu vous bénisse. Amen.
J'espère que vous avez tout mémorisé. Il y a des sujets de réflexion. Voilà, on va arriver au terme du culte. Et je demanderai à la personne qui fait les annonces de bien vouloir venir au micro. Merci.
Bonjour à chacun. Alors, étant issu du monde du darbisme, tu sais qu'il y avait les frères étroits, c'est une chose, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les frères 16, parce qu'ils étaient très étroits. Voilà. C'est un peu mathématique, mais je pense que tout le monde va y arriver. Ok. Alors, plus concrètement, les annonces pour cette semaine. Donc jeudi 25 à 19h15, ça date un petit peu, 19h15, rencontre du conseil. Vendredi 26, il y a à 20h15 le colloque ici. On va essayer encore à regarder avec la technique pour éventuellement mettre un lien pour que les personnes qui ne peuvent pas venir puissent le voir en ligne. Ensuite, samedi 27, il y a la rencontre générale de la FRAE à Launay. Et puis, dimanche prochain, le culte avec Philippe. Et il y aura la scène. Et puis, je profite encore pour les familles et surtout les enfants qui vont recevoir le potager numéro 6 pour le programme qui va suivre jusqu'au mois de février. Et puis, je rappelle encore l'offrande qui se trouve donc à la sortie, soit par Twint, soit directement dans le panier, qui permet à notre Église de fonctionner et puis surtout de payer nos pasteurs pour qu'on puisse avoir cette vie de communauté et d'église et faire fonctionner ce bâtiment et aussi la chapelle à côté. Merci.
Sans allonger, j'aimerais juste encore, j'ai retenu quelques mots de ce qui nous a été dit. Église et le monde, pas du monde, mais dans le monde. L'Église, le chrétien, doit être témoin dans ce monde. On a eu déjà depuis plus de 20 ans la possibilité d'être témoin dans ce monde par un stand chrétien dans les rues basses. Et encore cette année, un stand donc a été demandé à la ville. Aujourd'hui, on n'a pas encore reçu de réponse de la ville, mais je pense qu'on doit avoir confiance en Dieu. Il nous donnera certainement ce stand dans la ville encore cette année. Et ce stand est prévu pour les dates du 2, du 4, du 8 et du 18 décembre. Je ferai un petit flyer, je l'ai fait déjà, je ne l'ai pas encore mis là-bas au fond parce qu'on n'a pas encore eu de réponse positive, mais je ferai un petit flyer pour que tous ceux, toutes celles qui aimeraient se joindre pour pouvoir être des témoins dans cette ville, dans les rues basses, par un stand, qui puisse venir nous rejoindre. Merci.
Bonjour. C'est juste pour vous dire que du coup notre camp de ski aura de nouveaux lieux. Donc on se réjouit beaucoup. Donc ce sera du 26 décembre au 2 janvier. Donc on vous remercie beaucoup pour votre soutien aussi en prière pour ça. Et si vous connaissez des jeunes de 15 à 25 qui n'ont encore rien pendant les vacances, n'hésitez pas à leur faire la pub et puis à leur dire qu'il y a ce camp parce que on a de la place. Et puis on a des flyers, donc les mineurs, ils auront besoin d'un flyer pour pouvoir s'inscrire. Donc n'hésitez pas, on en a quelques-uns en bas aussi. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me venir, je serai au café. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on aura plus d'informations par rapport aux denrées aussi plus tard. Voilà, merci.
Voilà, je vous demanderai de vous lever pour la bénédiction. Pour ceux qui sont au loin derrière la caméra, vous pouvez rester couché en pyjama, si c'est le cas. Je voudrais simplement relever le dernier verset dans Romains. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Seigneur, tu es le sage, accorde-nous la sagesse et ta bénédiction après ce culte, dans nos réflexions, dans nos discussions, pour toute notre communauté, pour le monde qui nous entoure, accompagne-nous, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et à bientôt.